Je vous souhaite une très belle semaine avec Sud Radio. Vous êtes bien dans votre petit matin. Il est 6h.
Parlons vrai.
Et le journal de 6h nous est présenté par Laurie Leclerc. Bonjour Laurie.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous.
Quatrième jour de conflit entre Israël et l'Iran. Au moins 3 personnes ont été tuées par des frappes iraniennes cette nuit en Israël. Les autres titres de l'actualité, Laurie.
Dans ce contexte international tendu, le 55e Salon du Bourget s'ouvre aujourd'hui. Plus grand rendez-vous mondial de l'aéronautique. Le procès d'un refus d'obtempérer mortel. Un conducteur est jugé dans le Lot-et-Garonne pour avoir tué une gendarme de 25 ans. Il encourt la prison à perpétuité. Et puis top départ pour la ligne Trenitalia entre Paris et Marseille. Le premier train est parti hier matin. La promesse du concurrent de la SNCF, des trajets moins chers et plus confortables.
Encore cette nuit, des frappes israéliennes et une riposte iranienne. 3 personnes, je le disais, ont été tuées du côté de l'État hébreu.
Et près de 75 personnes ont été blessées cette nuit en Israël. Les civils sont invités à se réfugier dans les abris jusqu'à nouvel ordre. Raphaël, actuellement dans le nord de l'État hébreu, témoigne du ressenti de la population israélienne.
Je dirais qu'à peu près 90% ou 93% de la population comprend le besoin de ces frappes sur l'Iran à cause du danger de l'arme atomique détenue par des gens qui sont prêts à tout. Hein. Pour le reste, je pense qu'ils ont dû comprendre puisqu'on a eu des explications qui sont parues dans la presse. Mais je crois que même les gens qui ne se l'avouent pas et qui au départ étaient contre, un certain nombre ont dû changer d'avis. Et bien entendu, même dans un pays démocratique, comme disait la publicité en France, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Et au moins 224 personnes ont été tuées depuis vendredi en Iran. L'armée israélienne indique avoir visé cette nuit des sites de lancement de missiles dans le centre du pays. Le président américain Donald Trump appelle Iran et Israël à trouver un accord. Il s'est dit ouvert à une médiation de Vladimir Poutine. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, a exprimé hier son désaccord.
Nous avons une position, je crois, tous unis. Personne ne souhaite voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire, mais tout le monde souhaite que la discussion et la négociation reprennent. Et là aussi, les États-Unis d'Amérique ont une vraie capacité à faire revenir tout le monde autour de la table, compte tenu du fait qu'avec les Européens, ils sont des protagonistes importants de tout accord nucléaire, mais surtout que la dépendance israélienne à l'égard des armes et des munitions américaines leur donne une capacité à négocier. Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité, a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies, puisse être en quoi que ce soit un médiateur.
Et selon Emmanuel Macron, la France n'a participé à aucune opération défensive d'Israël, car elle n'a pas été sollicitée.
Et en pleine guerre entre Israël et l'Iran, le G7 s'ouvre aujourd'hui au Canada.
Les représentants des grandes puissances industrielles et plusieurs dirigeants invités vont aborder les thèmes du libre-échange ou de nouvelles sanctions contre la Russie, sans accord de cessez-le-feu avec l'Ukraine.
En France, c'est dans ce contexte international tendu que s'ouvre le Salon du Bourget.
50e édition du plus grand rendez-vous mondial de l'aéronautique et de l'espace. Inauguré par le Premier ministre François Bayrou ce matin, 2400 exposants venus de 48 pays sont attendus jusqu'à vendredi. Et cette année, les yeux risquent d'être particulièrement tournés vers les démonstrations militaires, comme nous l'explique Xavier Tittelmann, ancien aviateur militaire et consultant défense.
Pour le militaire, c'est plus une démonstration de force. Il y a les différentes zones d'influence qui viennent pour essayer de montrer les muscles, pour montrer ce qu'ils savent faire, pour faire des démonstrations aériennes, pour montrer les nouveautés et aussi pour projeter à 10, 15, 20 ans qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire. Et là, effectivement, on attend un petit peu la Chine, les États-Unis, l'Europe, les fortes tensions qu'on voit partout dans le monde, en Ukraine, en Israël, en Iran, vont aboutir à une focalisation, une surfocalisation sur les annonces militaires. Mais globalement, je pense que le civil va continuer à être ultra dominant en termes de contrats.
Et le président de Boeing a annulé sa venue au Salon du Bourget après le crash de l'avion Air India qui a fait 270 morts.
C'est un drame qui avait bouleversé toute la France. Dans le Lot-et-Garonne, un chauffard jugé aujourd'hui pour avoir tué un gendarme lors d'un refus d'obtempérer. C'était en 2020.
Le procès devant les assises du Lot-et-Garonne à Agen du conducteur qui avait mortellement percuté la jeune gendarme Mélanie Lemay. Il avait tenté d'éviter un contrôle routier avant de prendre la fuite. S'il assume son acte, Christine Bouillot, l'accusé réfute toute volonté de blesser cette gendarme.
Il est environ 21h ce samedi 4 juillet 2020 sur une petite route du Lot-et-Garonne quand les gendarmes tentent d'interpeller un conducteur lors d'un contrôle routier. L'homme leur échappe et s'engage alors dans une course-poursuite qui va durer 22 km. Dans les derniers mètres, une gendarme, Mélanie Lemay, alors âgée de 25 ans, lance une herse sur la chaussée pour stopper le véhicule. Elle n'aura jamais le temps de se reculer. Lancée à 150 km/h, la voiture fauche la jeune gendarme et la tue sur le coup. Originaire du département, le pédigré du chauffard est sans appel. Il roulait sans permis et sous l'emprise de cocaïne. 5 ans plus tard s'ouvre donc le procès de Yacine El Azizi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il comparaîtra libre devant les assises d'Agen, la justice l'ayant remis en liberté comme le prévoit la loi après 3 années de détention provisoire.
Et les précisions de Christine Bouillot.
Allez, c'est le début du bac. Ce matin, 8h avec la traditionnelle épreuve de philosophie.
Et près de 725 000 élèves sont candidats au bac cette année. Le plus jeune est âgé de 8 ans seulement. Un record historique. Le plus âgé, lui, a 78 ans. Il y a 79 000 correcteurs mobilisés pour noter les 1,6 million de copies qui seront rendues par les élèves.
Et nous serons avec l'un des correcteurs de ce bac philo, un prof du côté de Toulouse, qui sera avec nous aux alentours de 6h35 pour les derniers conseils, et puis pour nous expliquer aussi comment on corrige une épreuve de philo. Je ne sais pas, comme les mathématiques,
bah, voilà, il y a un résultat. Ouais. Voilà.
Bah oui, on verra cela avec lui donc tout à l'heure à 6h35.
Vanessa est là avec nous, bonjour Vanessa.
Bonjour Manu, bonjour Iwawa.
Bienvenue sur Énergie Vanessa, c'est notre premier appel du jour, c'est avec toi qu'on va lancer cette journée. Tu nous appelles d'où ?
De Saint-Galmier dans la Loire.
D'accord, et qu'est-ce que tu fais réveiller déjà à cette heure-là ? Tu te prépares pour aller au travail ?
Eh oui.
Oh, tu commences à quelle heure ?
Je commence à 8h.
Oh là, 2 heures avant, tu te réveilles ?
Ouais, il faut préparer tout le monde. Hein.
Tout le monde, ah, les enfants, tout ça ?
Eh oui.
Mmh. Ah ouais, tu vois ce que c'était, on t'avait dit pourtant.
Eh oui.
Il y en a combien ? T'en as combien, les enfants ?
2, c'est déjà pas mal.
C'est marrant parce qu'après le premier, tu t'es pas dit, c'est bon, ok, j'ai compris. Je pose la question.
Un peu sadomaso.
Et qu'est-ce que tu fais comme travail ?
Je suis assistante qualité dans l'agroalimentaire.
D'accord. Oh, ça veut dire que j'ai pas le droit de donner la marque.
Ouais. Je peux, hein, si tu veux.
Ah oui, mais ça me va, moi.
Je travaille chez Pasquier, donc je fais de la grillotine principalement.
La grillotine, la biscotte ?
Oui, exactement.
Ah, et c'est toi qui l'ai fait ?
Alors, je ne les fais pas exactement, mais par contre, je peux travailler sur de l'amélioration produit, par exemple.
Oh,
oh non, c'est une question con, mais comment on améliore une biscotte, quoi ? Enfin, c'est pas... Non mais c'est vrai, c'est comme tu me disais, alors là j'ai de la terre, je vais l'améliorer. Non mais enfin, voilà un caillou, je travaille pour l'amélioration des cailloux. C'est ce qu'on appelle un emploi fictif. Comment tu fais ?
Bah, ça peut être par exemple pour la forme ou pour des choses comme ça, parce que normalement elle est très rectangulaire, mais il peut s'avérer qu'avec le temps, elle devient un peu plus ronde.
Ah d'accord.
Le truc à améliorer avec les biscottes, c'est qu'elles arrêtent de se briser dans le paquet surtout, non ?
Je sais pas s'il y a des techniques pour arrêter pour que les biscottes se brisent pas. Vous étudiez ça, Vanessa ?
On étudie, hein, mais après, il faudrait que quand on les met en rayon, on les met sympathiquement, quoi.
Ah, faut pas les jeter, quoi.
Voilà, exactement. Et il faudrait commencer par ça, déjà.
Voilà, je prends pas souvent de biscottes, mais je sais que le problème de la biscotte, c'est qu'on commence à mettre du beurre dessus et elle se pète.
Ouais, après, il faudrait essayer la grillotine, tu verras, t'auras pas de problème.
Allez, alors, tu sais quoi, j'en prendrai pas de la grillotine ni de notre biscotte, parce que j'ai l'impression de prendre 104 ans si je prends une biscotte. Non, ce qui est étonnant, c'est que j'ai vraiment l'impression que les biscottes, c'est pour les personnes âgées, et pourtant les personnes âgées n'ont plus beaucoup de dents. Donc, c'est surprenant.
C'est vrai ils doivent les mettre dans le lait, tu vois, pour les faire fondre un peu, ça doit être plus facile à croquer.
Non, pas à croquer du coup, c'est. J'ai une pâtée en fait, leur truc. Tu peux te tromper, c'est la pâtée pour le chien ou pour mamie, je sais plus. Vanessa, c'est avec toi qu'on lance cette journée, merci beaucoup, on a bien ri. Je te souhaite une belle journée, occupe-toi de tes enfants, va à la grillotine, fais-toi plaisir. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine. Et je vais t'offrir le mug Manu dans le 6-10.
Merci, c'est super gentil.
Tu veux faire un petit coucou à quelqu'un qui nous écoute en même temps ?
Ouais, mon mari Nicolas qui est dans le salon.
D'accord, chez toi ?
Oui, chez moi, pas
d'accord,
loin.
D'accord, ok. Donc ton couple, Vanessa, on est là, à dire bonjour par la radio à quelqu'un qui est à 2 mètres de toi, on est d'accord ?
Exactement.
D'accord.
Et lui, il est dans le salon en train de bouffer les grittines, on a plein le cul. Il bouffe.
Mais... Je crois qu'il peut plus les voir.
D'accord. Mais vous vous êtes croisés quand même depuis 2-3 ans ou pas ? Ou c'est vraiment que par la radio ? Elle appelle les radios différentes, j'aimerais vous dire bonjour
à mon mari. Ouais, que par les radios,
On t'embrasse, Vanessa, belle journée à toi.
Merci, belle journée.
Gros bisous, il est 6h09, Damien Le David sur Énergie, Next Summer. Et juste après, retour des sondages du matin sur Énergie. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when it breaks your heart next summer.
breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting here. Call me when you're all fucked up, my lover, I'll be there to lick your tears.
Bienvenue sur Énergie, il est 6h12. On démarre cette journée ensemble. Tout à l'heure, on a démarré avec Lorenza qui nous a raconté que ce week-end, comme par hasard, elle n'avait plus retrouvé le groupe WhatsApp pour la cagnotte Litchi de l'anniversaire.
Oui.
Excuse qui ne tient pas la route environ. Même au moment où tu l'as dit, en fait, ça tenait pas la route. Genre, j'ai perdu le groupe WhatsApp avec marqué anniversaire, un truc de dingue. Donc, ce qui fait qu'elle n'a pas participé à la cagnotte, mais elle a quand même signé la carte.
Oui.
Une sorte de combo.
Bien sûr.
Une sorte de gros péché du week-end. Ma question est simple, quel a été le vôtre? Quel a été votre péché ce week-end? Quel a été le truc pas joli joli que vous avez fait? Appelez-nous au 0870 42 48, on va vous prendre au téléphone après M. Pokora. Et tout de suite, c'est parti. Voici les sondages du matin, les premiers de la semaine. 15% des hommes le font au moins une fois par an sans le dire à leur partenaire. Qu'est-ce qu'ils font, Nico?
Être infidèle?
Être...
Oh
non.
Là là.
Non, ce n'est pas
je
ça.
Propose.
Salomé.
Ils vont se faire masser?
Ils vont pas se faire masser. Lorenza?
C'est un truc cool, une petite sortie ou quoi?
C'est une sortie. C'est une sortie, il y en a qui adorent, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, je suis pas fan.
Ils vont faire des UV?
Non. 15% des hommes le font au moins une fois par an sans le dire à leur partenaire.
Ils vont faire de la pêche avec des copains?
Non plus.
Sortir en boîte?
Non, c'est aller dans un endroit précis.
Et c'est lié à la thune?
Complètement lié à la thune.
Ils vont acheter un ticket de remillon?
Ils vont pas acheter quelque chose.
Ils vont au casino?
Aller au casino, exactement. 15% des hommes vont au casino sans le dire à leur partenaire.
Si ça gagne, tu dis rien. Si ça perd, tu dis rien. Ça se tient.
37% des gens qui ont testé cette activité artistique ont échoué. Quelle activité, Lorenza?
C'est un instrument de musique?
Non, c'est pas de la musique.
Est-ce que c'est une danse en particulier?
Non, ça n'a pas de rapport ni avec la danse, ni avec la musique, ni un instrument de musique.
La poterie?
C'est pas de la poterie, mais on avance.
Le chant?
C'est pas le chant. Non.
C'est manuel?
Non, pas la musique. C'est manuel, ouais. Oui, c'est manuel.
La sculpture?
La sculpture, non. Bah, vous avez fait...
La peinture, du
bah
coup.
Oui, la peinture.
Ouais. Okay.
37% des gens qui ont testé la peinture ont échoué. Ils ont abandonné.
Tu sais que parfois, tu vas dans un musée, tu vois les peintures, tu dis « Oh, je peux le faire ».
Ouais.
Puis après, il faut acheter de la gouache ou je sais pas quoi. Là.
Je sais pas exactement. Mais ça vous est jamais arrivé, vous dites je peux le faire et vous partez en fait et vous dessinez un truc, n'importe quoi au hasard, et vous dites peut-être qu'à la fin ça va sortir un truc.
Ouais.
Et ben ça sort que de la merde à chaque fois. Voilà. Lorenzo?
Moi ça m'est arrivé et au début ça donne un petit truc, tu vois, tu penses que ça peut être sympa, que tu vas l'accrocher et tout, et ben en fait à la fin tu rajoutes tellement de trucs que c'est dégueulasse et moi je l'ai gardé. Et je l'ai toujours avec moi, je me suis dit au moins ça prouve que tu es nul en patron, ne t'en mets jamais, tu vois. C'est genre le
n'oublie sourire. Jamais de ne pas t'es te lancer nul. Là-dedans.
Ouais.
3% des gens ont déjà envoyé ce SMS à quelqu'un par erreur. Quel est ce SMS?
Il me fait chier l'autre con, en parlant de la personne.
Ouais. Non, c'est pas ça.
Bonne année.
Bonne année non plus.
C'est gênant.
Ah oui, c'est gênant. Ouais, bien sûr. 3% des gens ont déjà envoyé ce SMS à quelqu'un par erreur.
Je t'aime?
Je t'aime. Non, mais non. On est dans l'esprit. Mais c'est plus fort que ça.
Un chéri? Envoyer chéri
à
quelqu'un?
Non, c'est vraiment gênant.
On fait l'amour ce soir?
C'est pas loin de ça, c'était « J'ai envie de toi ».
Oh la gêne.
3% des gens ont déjà envoyé ce SMS à quelqu'un par erreur. « J'ai envie de toi ».
Il faut vite désamorcer avant que la personne réponde.
Ouais.
Mais qu'est-ce que tu veux?
C'est foutu, quoi.
Comment tu l'expliques, « J'ai envie de toi » envoyé à quelqu'un? Enfin, toi,
oui, c'est vrai.
Je t'apprends le décès de papy, j'ai envie de toi. Bon après, pourquoi t'as écrit ce truc-là à ce moment-là aussi? 6h15, les sondages du matin, il y en aura d'autres évidemment demain à la même heure. Le nouveau M. Pokora, c'est Reflet, c'est dans 3 minutes. Merci d'être avec nous, c'est Manu dans le 6-10, c'est Énergie.
Manu dans le 6-10.
Je vous écoute au lait. Où il reprend un de ses tubes, si je puis dire, le Lamento d'Ariana. Il reprend l'air du Lamento d'Ariana et il le fait chanter par la Vierge auprès de la croix. Il y a eu une grande discussion avec les Palestiniens lorsque Monteverdi commence à composer de cette nouvelle manière. Et cette nouvelle manière, en particulier, utilise les dissonances de manière tout à fait nouvelle. Les dissonances ne sont pas simplement temporaires ou de passage, elles sont mises en exergue en tant que telles, notamment pour mettre en valeur la souffrance d'Ariane, par exemple. Qu'est-ce qui peut justifier ainsi la mise en valeur du lait? Alors, dans la préface des frères Monteverdi au Madrigaux, les frères Monteverdi disent, c'est la poésie. Une femme souffre ou un homme souffre, il faut bien qu'on l'exprime. La musique doit être soumise, la musique doit être soumise à la poésie. Ce que je suggère, c'est qu'il y a tout simplement peut-être aussi un arrière-plan culturel, de même que la nécessité de représenter le Christ en croix a autorisé, selon les signes, a nécessité même selon les signes qu'on représente le lait. Ce qui était interdit d'une certaine manière par les normes artistiques grecques, et bien de la même manière, parce que le Christ a pleuré, parce qu'il a poussé un grand cri, parce qu'il a souffert, parce que la Vierge elle-même a crié, et bien la dissonance doit avoir sa place dans la musique. Voilà, donc c'est un point très important pour moi qui occupe la dernière section du livre. Dans la littérature sur l'opéra, on a tendance à faire comme si c'était le verbe qui était exclusivement le concept théologique. La voix, elle, étant du côté de l'humanité, de la vulnérabilité, et pourquoi pas du matérialisme et de l'athéisme. Et puis il y aurait le verbe qui s'abattrait sur la voix et qui l'empêcherait d'être ce qu'elle doit être. Donc c'est un texte, il y a un livre qui s'appelle Le Verbe et la Voix de Michel Poisat, et qui va dans ce sens finalement. Ce qui fait que l'opéra au fond a une connotation sacrée, c'est que on affirme la primauté du verbe sur la voix, et la voix elle est là pour représenter toute l'humanité, etc. Mais je crois que c'est une erreur. La voix elle-même a un statut théologique tout à fait particulier, et donc c'est ça occupe la dernière section de mon livre.
Et vous mentionnez des réactions vives, virulentes, par exemple de Tertullien, à l'égard du pouvoir de la voix, qui peut être tellement manipulatrice, qui peut être tellement délétère et dangereuse, si bien qu'on peut condamner justement le spectacle dans lequel intervient la voix et la musique.
Alors ces textes de Tertullien, effectivement, sont très frappants. Je m'y suis intéressée après la lecture du livre de Didier Huberman sur l'image ouverte, oui, qui porte au fond sur des questions assez proches des miennes dans la dernière section de mon livre, mais pour ce qui est de la peinture, hein, où il s'intéresse aux raisons pour lesquelles les pères de l'Église se sont méfiés de l'imitation. Au fond, c'est la même question en fait que je pose dans la dernière partie de mon livre. Alors Tertullien, dans sa lettre sur les spectacles, reproche aux tragédiens de singer la vocifération prophétique, de singer la clameur de douleur christique, et finalement de détourner le chrétien de ce à quoi il doit vraiment s'intéresser, c'est-à-dire plutôt que de s'intéresser à la douleur du Christ, plutôt que de s'intéresser à la croix, il regarde des singeries de souffrance. Et c'est un argument qu'on retrouve pour ainsi dire tel quel chez Bossuet.
Oui, au XVIIe, à l'époque justement où l'opéra est utilisé ou célébré par le pouvoir monarchique.
Tout à fait. Donc Bossuet reprend au fond cet argument à Tertullien. Il dit, mais si vous voulez pleurer au théâtre, hein, si vous voulez pleurer à l'opéra, si vous voulez pleurer en lisant des romans, vous vous détournez de ce sur quoi vous devez vraiment pleurer, à savoir si vous voulez du sang, si vous voulez des larmes, mais contemplez donc la passion du Christ. Hein. Il faut bien avoir en tête hein, que les lecteurs, ou les auditeurs plutôt, de Bossuet connaissent très bien les exercice spirituel de Saint Ignace où l'on est amené à méditer comme si nous étions des témoins à l'intérieur d'une scène, à l'intérieur de la scène évangélique, et comme si nous assistions de nos propres yeux. Donc c'est vraiment une scène fictionnelle. On est vraiment appelé à nous imaginer à l'intérieur de la scène de la Passion. Et donc finalement, ces exercices, finalement aller au théâtre, aller à l'opéra, lire des romans, mais l'opéra d'une certaine manière c'est pire que tout, parce que c'est vraiment
c'est la totalité des sens qui sont...
C'est la totalité des sens exactement qui sont requis, et donc du coup nous détournons de ce qui devrait vraiment être un exercice spirituel. Je crois que c'est vraiment à l'arrière-plan du texte de Bossuet. Alors On ne peut pas donner totalement tort à Bossuet quand on est chrétien, bien sûr, il faut économiser son temps pour le consacrer à Dieu. Mais néanmoins, il faut, je crois que ces critiques peuvent être en partie repoussées et Monteverdi, par sa propre œuvre, les repousse. Si l'on prend en considération ce que la voix... Comment la notion du chant et la notion de voix a été modifiée par la théologie chrétienne et par la notion d'incarnation. Donc, ces textes sur le chant nouveau de l'Église, ces textes sur la voix du Christ qui devient la vive voix du Seigneur, ça modifie totalement notre conception du chant. Et en ce sens, il n'y a plus de contradiction à entendre une femme pleurer et à penser à la Vierge qui pleure, à entendre le cri d'un mourant et à penser au cri du Christ sur la croix. Alors encore une fois, je ne dis pas que on est obligé d'assister à l'opéra de cette manière, mais il y a très certainement des opéras qui nous contraignent à les écouter de cette manière. Par exemple, Dialogue des Carmélites, oui, ou Saint-François d'Assise, c'est, oui, tout à fait évident. Mais Monteverdi nous y invite aussi pour le Lamento d'Argana.
Presque à l'origine. Mais vous semblez... dire que, et vous le dites, pardon, c'est pas sembler, que le destin de l'opéra, c'est d'être écartelé. Et j'ai retenu dans votre essai trois éléments de contradiction ou d'écartèlement. La mimésis, l'équivocité, la représentation théâtrale et l'énonciation équivoque, le spectacle et la forme de liturgie dont vous parliez à l'instant. Est-ce que c'est justement ce qui fait la complexité, la richesse de l'opéra, que cet écartèlement sur lequel il repose quasi constamment?
Oui, c'est sûr que l'opéra, comme la peinture chrétienne au fond, est écartelé entre ce pôle mimétique qui fait que l'opéra est une forme de théâtre un peu spéciale, avec une cosmologie fictionnelle spéciale, puisqu'on y chante en continu, c'est clair. Et puis, un pôle plus théologique, où finalement, une autre histoire nous est racontée sous l'histoire, où la voix opératique a un statut théologique, et donc, du coup, effectivement, l'histoire qui nous est racontée n'est pas au second plan, mais en tout cas ne nous invite pas à une participation émotionnelle du même ordre que dans les opéras, disons, plus mimétiques. Alors, j'ai proposé dans mon livre, d'une certaine manière, une espèce de continuum entre... Alors, j'ai pris les opéras de Monteverdi comme modèle, puisqu'il est là. D'une certaine manière, il a tout inventé dans les opéras qui nous sont parvenus de lui. D'une certaine manière, il a tout inventé. Donc, je suggère qu'avec Orfeo, nous sommes véritablement dans une tradition plus théologique, où Orphée est vraiment, selon la tradition humaniste, Orphée est vraiment une figure christique. Dans le livre, je rappelle plusieurs sources de Marcel Fissin en particulier, qui présente Orphée comme une nouvelle figure christique, et c'est d'ailleurs un thème qu'on retrouve même chez certains pères de l'Église. Alors, dans cette tradition, disons, plus théologique, plus en lien avec
les études qui sont de l'OCDE, du CNRS. Le CNRS a une étude en 2023, économie des normes entre coordination et pouvoir.
Merci beaucoup, Natacha Vallat. On se retrouve demain, vous nous parlerez de l'économie du tennis. Bonjour Laure.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Ce matin, vous nous proposez un spectacle pour clore la saison de l'Orchestre National de Lille.
Rendez-vous les 8 et 9 juillet au Casino Barrière de Lille, donc, pour les derniers rendez-vous de l'orchestre avec son public dans l'esprit de ce festival, les Nuits d'été, à savoir une autre conception du concert avec mise en espace et vidéo. Un véritable spectacle associant musique, chant et même danse, placé sous le signe des années 20, du cabaret et surtout de Kurt Weill. Avec au cœur de ce spectacle, les sept péchés capitaux, dernière œuvre composée par Kurt Weill sur un texte de Bertolt Brecht, dans l'esprit du théâtre musical. Alors une œuvre moins connue que l'opéra de Katsu, mais dans la même veine, comme nous le raconte Joshua Weilerstein, le directeur musical de l'Orchestre National de Lille, qui dirigera donc ce spectacle.
La collaboration avec Brecht, c'est très intéressant parce que Brecht était très politique, très socialiste, anti-capitaliste avec le texte. Mais pour Weill, c'était plus important d'avoir une tragédie humaine. Et donc, on a les deux avec cette œuvre, cette pêche capitaux. C'est une grande mélange de cabaret, de jazz, de musique classique. Il était vraiment un génie avec les mélanges et il a créé une œuvre, cette pêche capitaux, qui est dévastatrice, mais avec une musique très élégante et très un peu sarcastique et ironique. J'ai dit à l'orchestre, c'est un mélange de l'intensité et l'émotionnalité de Mahler, l'ironie de Prokofiev et le lyricisme de Gershwin. Et c'est avec toutes les choses.
Meine Schwester und ich stammen aus Louisiana, wo die Flüsse des Mississippi und dem Munde fließen, wie sie aus den Liedern erfahren können, dorthin wollen wir zurückkehren, lieber heute als morgen, lieber heute als morgen. Wir sind aufgebrochen vor vier Wochen, nach den großen Städten unser Glück zu versuchen. In sieben Jahren haben wir's geschafft, dann kehren wir zurück. Aber lieber schon in sechs. Auf uns warten unsere Eltern und drei Brüder in Louisiana. Ihnen schicken wir das Geld, das wir verdienen. Und von dem Geld soll gebaut werden ein kleines Haus.
Le prologue des sept péchés capitaux de Kurt Weill, ici dans l'enregistrement tout récent de Simon Rattle avec le London Symphony Orchestra et Magdalena Kojena. Sept péchés capitaux que dirigera Joshua Weilerstein avec son Orchestre National de Lille et la formidable chanteuse Bella Adamova les 8 et 9 juillet au Casino Barrière de Lille.
Merci beaucoup, Laure Maison. On vous retrouve ce soir à 20h.
À ce soir et très belle journée à tous.
À 7h15 ce matin, Jacques Maire, commissaire général du pavillon France à l'exposition universelle d'Osaka, sera l'invité des Voix de l'économie. Et puis nous parlerons également du financement des entreprises européennes, dont le chiffre du jour, ce sera juste avant le journal de 7h. 53% des chefs d'entreprise européens estiment que leur principale difficulté est d'obtenir un accès au financement contre seulement 30% pour leurs homologues américains. On y revient donc avec notre invité dans une vingtaine de minutes. 6h29, la météo. Avec Charles Bonner. Bonjour Charles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Une journée ensoleillée.
Une journée sans nuages qui concerne toutes les régions, à l'exception de régions voisines de la Manche. Ailleurs, on dépasse déjà les 20 degrés ce matin dans le sud. Dans l'après-midi, la chaleur continue de s'imposer jusqu'à 25 à Lille, 26 à Paris, 27 à La Rochelle, 26 à Lyon et 33 à Montpellier.
6h, 7h, la matinale écho de Radio Classique. Avec Stéphane Pedrazzi.
Et avec Charles Bonner pour le journal de 6h30.
Avec à la une ce matin, entre les guerres et les droits de douane, les dirigeants du G7 se réunissent au Canada avec un défi, parler d'une même voix. Il reste 1h30 pour réviser Platon, Aristote et Rousseau. Le bac de philo commence à 8h ce matin, c'est la première épreuve de la semaine. Et puis les meilleurs clubs de football viennent d'entamer leur Coupe du Monde aux États-Unis, un marché essentiel.
Et dans le journal de l'économie, nous parlerons de la succession à la tête de Renault, Luca Di Meo. Annoncé son départ hier soir à la surprise générale. Les dirigeants mondiaux se réunissent au Canada.
Entre les sapins, les conifères, les montagnes et les rivières, c'est à Kananaskis, dans l'ouest canadien, dans les Rocheuses, où vient d'arriver Donald Trump. Un cadre qui respire le calme dans un monde de tourments, la guerre en Ukraine qui s'enlise, le Moyen-Orient qui s'embrase et les droits de douane qui ralentissent le commerce, Mipister.
C'est un moment important pour le Canada et son nouveau Premier ministre Mac Carney, qui a choisi d'inviter les dirigeants de nombreux autres pays, comme le Mexique, l'Inde ou encore l'Ukraine. Ce sera également la première visite de Donald Trump sur le sol canadien depuis son investiture et les nombreuses menaces proférées contre son voisin ces derniers mois. Malgré les nombreux sujets de friction, des droits de douane, à la guerre en Ukraine ou encore celle au Moyen-Orient, les participants, Union européenne en tête, misent sur des discussions à bâtons rompus pour parler d'une voix commune. Mais la parole la plus attendue est celle de Donald Trump, prévient le géopolitologue Patrick Martin-Génier.
Est-ce qu'il veut continuer sur le chemin de l'aide à l'Ukraine? On sait très bien qu'il souhaite que cette guerre se termine. Il s'en est entretenu d'ailleurs avec Vladimir Poutine. S'agissant d'Israël et de l'Iran, est-ce que finalement il ira plus loin dans le soutien à Israël? Est-ce qu'il va soutenir des frappes plus intenses? Est-ce que les États-Unis eux-mêmes pourraient rentrer dans le conflit? En réalité, tout cela va avoir un rôle important. Il sera là pour défendre les seuls intérêts des États-Unis et c'est ça qui primera, d'autant qu'à chaque fois qu'il a un sommet, il veut montrer à ses électeurs qu'il a obtenu gain de cause.
Preuve du climat d'urgence, les pays du G7 devraient s'abstenir de publier le traditionnel long communiqué final. Ils dévoileront leurs engagements concrets sur les sujets brûlants tout au long du sommet.
Rémi Pfister, le Moyen-Orient qui vient de connaître sa quatrième nuit de frappe, au moins 224 morts en Iran, 16 en Israël. Le chef du renseignement iranien est mort. Les États-Unis disent s'être opposés à une opération contre le guide suprême, mais au-delà des dirigeants, Israël vise les infrastructures nucléaires. L'Iran qui se retrouve donc en situation de faiblesse, selon la politologue franco-iranienne Manaz Shirali.
Les Israéliens, ils ont déjà coupé les mains de la pieuvre, et là maintenant c'est la tête qu'ils visent. Le ministère de renseignement iranien s'est effondré. Les nouveaux chefs de l'armée qui ont été désignés par Khamenei, trois d'entre eux à nouveau, ils sont morts. Une armée qui n'a pas de tête, comment elle peut tenir? Cette manière aveugle d'envoyer des missiles à droite et à gauche sans savoir, sans pouvoir viser, pour moi ce n'est pas un signe de puissance, c'est un aveu de faiblesse. L'armée puissante est celle qui tue 24 généraux de l'armée rivale en une seule frappe. C'est ça la force.
Un propos recueilli par Eric Kioch. Et l'armée israélienne dit ce matin avoir frappé des centres de commandement des gardiens de la Révolution à Téhéran. Et selon Emmanuel Macron, la France n'a pas participé aux opérations de défense du territoire israélien car elle n'a pas été sollicitée par Israël, dit-il.
6h33, les lycéens sont en train de prendre des forces avant de plancher.
Oui, le bac de philo débute à 8h. C'est l'heure donc du petit déjeuner pour 530 000 candidats. Ils auront le choix ce matin, deux dissertations et un sujet de commentaire. Viendront ensuite, plus tard dans la semaine, les épreuves de spécialité. Il y aura donc au total 3 millions de copies à corriger pour 40 000 correcteurs. Le ministère exclut l'utilisation de l'intelligence artificielle, même si des entreprises ont déjà lancé leur programme. Marine Salaville, c'est le cas d'Examino.
Plus de 8000 professeurs utilisent déjà Examino. Dorian Collin, le cofondateur de la plateforme.
La première étape pour l'enseignant, ça va être d'importer le sujet, ensuite d'importer les différentes copies d'élèves, et enfin il va ajuster la notation et les réponses attendues. L'IA va corriger en quelques secondes et fournir un rapport détaillé sur chaque copie d'élèves.
Mais il y a encore du travail sur la justesse de la correction.
Toutes les semaines, on a de nouvelles mises à jour. L'IA est plus performante dans les matières plus littéraires et un peu moins dans les matières scientifiques. Le principal souci, par exemple, pour faire un calcul. Si l'IA fait une erreur à une certaine étape, c'est tout le raisonnement qui va être impacté.
Bien sûr, le professeur peut choisir de se fier entièrement à l'IA ou d'adapter la note. Le gain de temps reste monumental, près de 6 heures par semaine selon Examino. Et cette solution est aussi plus égalitaire pour les étudiants selon Dorian Collin.
L'enseignant, il va avoir 30-40 copies à corriger d'un coup. Donc forcément, il va y avoir un peu de la fatigue, il va y avoir un peu des écarts entre la première.
Peuvent se casser. Est-ce que les miettes d'un cœur peuvent encore être mangées? Je me demande ce qui se serait vraiment passé si on s'était dit tout le fond de notre pensée. La folie des non-dits et des paroles en vue. La manie de mentir pour se jeter la pierre. On se force à être poli, on ne sait plus quoi faire. J'ai envie de partir. Before you blame it on me, oh.
know you gon' lose it. This new Snoop, come on baby boo, you got to get into it. Gon' fool with the player with the cool wit. Yeah, yeah, you know I'm always on that cool wit. Walk to it, do it how you do it. Have a glass, let me put you in the mood in. Little Cupid, looking like a student. Long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom or sister to cool that the girl wanna do it, I just might do it. Get her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these kids when they ask who do this, but everybody know who girl that you is.
Beautiful.
See my baby boo shit, I get foolish. Smack a nigga that tries to pursue it. Homeboy, she taking, just move it. I asked you nicely, don't make the dog lose it. We just blow throw and keep the flow moving. In a 6-4 Leon baby boo cruising. Body wagging, tippy, you're blueing. Had him hydraulic squeaking when we screwing. Now she yelling, hollering out, snooping. Hooting, hollering, hooting. Black and beautiful, you the one I'm choosing. Hair long and black and curly like a Cuban. Keep grooving, that's what we doing. And we gon' be together until your mom's moving. In. You got my pictures on the wall in your room, and girls be complaining, you keep me booming. But girls like that wanna listen to Pat Boone. You's a college girl, but that'll stop you from doing. Come and see the dog in the hood near you. And you don't ask why I roll with a crew. When twist up my fingers and wear dark blue. On the east side, that's the crew I choose. Nothing I do is new to you. I smack up the world if they rude to you. 'Cause baby girl, you're so beautiful.
I'm
tous les produits de la marque Pampers. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 juin, des 30 euros d'achat et dans la limite de 40 euros, modalité sur intermarché.com.
Découvrez la nouvelle gamme d'Esperados Sunlight avec ses saveurs citron-citron vert, cerise grenade et mangue passion. Elles ont toutes des notes légères. Mais attention, ce sont des Desperados Sunlight. Chaque saveur a son univers. Nouvelle gamme Desperados Sunlight, le goût fruité de la légèreté. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Fun Radio.
À Paris et région parisienne.
101.9.
Ça, c'est le bruit qu'on entend quand on paye l'essence. Ou encore celui d'une amende qui sort de nulle part. Le genre de nid de poule à en faire décoller une roue. Et puis, gratter les fientes de pigeons de son pare-brise. Et ça, le bruit des plaquettes de frein usées. Des pistons qui lâchent. Et cette pièce du moteur qui tombe en panne quand il faut pas. Et voilà ce qu'on entend. Quand on prend un Bolt. Pourquoi conduire quand il y a Bolt? Téléchargez l'application.
Le printemps, la saison du renouveau. Et des allergies.
Bruno sur Fun Radio, dès 6h.
Hey. 6h45, c'est Fun Radio, 01 42 48 5000. Vous appelez maintenant, on va jouer au toutou gagné, toutou perdu, là, dans 5 minutes. Une barre de son, une télé 109 cm à vous offrir, des AirPods et le pack Fun Radio. 01 42 48 5000, bon courage.
Hey, this is Lady Gaga on Fun Radio.
Pay the toll to the angels, don't suck all in the cloud.
Watch it burn. With us.
16h49, c'est Fun Radio. Juste avant 7h du matin, on va parler d'anecdotes d'examen. Aujourd'hui, c'est le bac. Bon courage à ceux qui passent le bac de philo. Il y a Fabienne qui m'envoie en DM. Ouais. Attends, parce que c'était le début. Voyez là. Mon beau-père était croque-mort. Il m'a accompagné le jour du bac en corbillard. Tout le monde m'a vu descendre. Et le sujet du bac, Hamlet, la scène du crâne. Fou rire dans la salle, tout le monde m'a dévisagé.
Ah, mais c'est mercredi Adam, ça.
Exactement. C'est complètement mercredi Adam, ça. Allez, les copains, on joue. Are you ready? Gagné tout ou perdu de ce matin, on va jouer avec Geoffrey, direction Baume de Venise ce matin. On est dans le Vaucluse. Bonjour Geoffrey.
Bonjour à tous, bonjour Bruno.
Salut Jojo.
Baume de Venise, très bon vin.
Oui.
Très bon vin, oui. À Vaqueras aussi, etc.
Bien sûr. Baume de Venise, vin de dessert notamment. Avec un gâteau au chocolat, un petit verre de Baume de Venise à consommer avec modération, c'est pas mal.
Vous savez, dans la région, il n'y a pas que ça. Hein. On prend tous les verres qu'il y a.
On a bien compris,
Geoffrey. Geoffrey, bienvenue sur Fun Radio. En arrivant ici sans rien faire, tu as gagné 4 cadeaux.
Une barre de son grâce à la sortie de Lilo et Stitch qui est toujours à l'affiche. D'ailleurs, il a fait un record 3,5 millions d'entrées au cinéma.
Comme par hasard, un film Fun Radio. Je dis ça, je dis rien.
Comme par hasard. Ensuite, une télé 109 cm, des AirPods et un pack Fun Radio.
Ces cadeaux, ils sont à toi. Il faut que tu les gardes, Geoffrey. Pour les garder, il faut que tu répondes correctement à 4 questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse, c'est un cadeau qui disparaît. T'es prêt?
Oui.
Première question. Le café le plus cher du monde est récolté dans les crottes d'une civette asiatique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Vrai.
Ouais, il s'appelle le café Kopi Luwak à partir de grains de café partiellement digérés puis expulsés par la civette. Une tasse peut atteindre 70 euros.
Ah oui.
C'est un petit lémurien la
civette. Oui, c'est un lémurien, il la sort en capsule?
Et non, ça n'existe pas en capsule.
D'accord. Parce que ça, c'est douloureux. Hein.
Geoffrey, tu gardes tous tes cadeaux. Deuxième question. Dans l'expression courante, ça fait des lustres. Le terme lustre définit à l'origine une période de 5 ans. C'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
Non, c'est vrai. Ça vient du latin lustrum. Sous l'Empire romain, ça désignait un sacrifice accompli tous les 5 ans.
Bon, je serais moins débile.
Ouais. Mais tu vois, on apprend des trucs. Mais c'est le but aussi, hein, du tout gagné, tout perdu. Geoffrey, tu viens de perdre la barre de son. Tu joues pour la télé 109 cm, les AirPods et le pack Fun Radio. Troisième question. La monnaie de l'Inde, c'est le dollar indien. Vrai ou faux?
Vrai.
Non. C'est la roupie.
Bah oui.
Ah oui.
Eh ouais. Geoffrey, tu viens de perdre la télé. Tu joues pour les AirPods et le pack. Dernière question. Pour faire avancer la science, Isaac Newton s'enfonça une aiguille dans le globe oculaire pour étudier la perception des couleurs. C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est quoi les conclusions de l'étude?
Mais je sais pas. Ça écoute, fait mal. C'est douloureux, je pense.
Je pense à sa mère. Oh, Isaac.
Mais ça, Isaac Newton, tu penses juste à la pomme qui lui tombe sur la tête. Ouais, tu vois, mais il y avait ça aussi. Il n'est pas en place deux minutes. À un moment, on lui a dit, mais Isaac, t'es chiant. En fait, arrête, tu vas t'en prendre une, hein, je te jure. Bon, Geoffrey, à l'arrivée, cadeau pour toi. AirPods et pack Fun Radio.
Yes.
Okay, merci.
On t'envoie ça vite, Geoffrey, du côté de Baume de Venise. Passe une belle journée, mon pote.
Merci, merci
vous
aussi, merci.
Ciao, ciao.
Bisous.
Bormin, Break Your Heart, c'est tout de suite sur Fun Radio.
Votre intérieur, c'est bien plus que des meubles. C'est votre histoire. Jusqu'au 30 juin, Mobalpa vous offre jusqu'à 2000 euros pour créer votre intérieur sur mesure. Voir conditions en magasin.
Mobalpa, unique comme vous.
Élu meilleure chaîne de magasins 2025, catégorie mobilier et décoration.
Retrouvez les magasins d'Île-de-France sur mobalpa.fr.
Et si c'était votre spot radio que vous entendiez en ce moment sur Fun Radio? Vous êtes chef d'entreprise, directeur de la communication ou du marketing. Vous souhaitez faire connaître votre activité auprès du plus grand nombre, faire venir du monde sur votre événement ou faire exploser vos ventes? Alors communiquez sur Fun Radio en Ile-de-France. C'est efficace, facile et économique. Rendez-vous vite sur mapubfunradio.fr et profitez en ce moment de conditions exceptionnelles.
I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm fine.
finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but to face the black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out.
Morning Rock, classique.
Save me. Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I
FM, la radio du rock. Bon réveil et bon début de journée avec Midnight Oil, Blue Sky Mine, pour nous emmener jusqu'à 7h. Ben voilà, ça y est, on y est.
Oui, FM, la radio du rock.
Salut tout le monde et bienvenue. Vous écoutez Arnold, c'est le Morning Rock et c'est moi qui mets les disques sur Oui FM jusqu'à 10h. Lola Young et Panic à The Disco. Après, ces trois choses à savoir. Nous sommes aujourd'hui le lundi 16 juin. De nouvelles frappes iraniennes ont touché Israël dans la nuit, provoquant la mort de trois personnes.